Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été. Chaque samedi de cet été 2021, nous recevons un acteur important de l'économie ou un économiste pour nous aider à comprendre ce que nous vivons, évoquer les enjeux qui sont devant nous. Depuis un mois et jusqu'au 28 août, nous échangeons successivement avec une banquière centrale, des patrons des secteurs automobiles, de l'énergie, de la pharmacie et quatre économistes de tous horizons. Et ce soir, l'écho de l'été, c'est avec Patrick Artus, économiste, conseiller économique de Natixis. Bonsoir Patrick Artus.
Bonsoir Dominique.
Et vous allez répondre d'abord à mes questions, puis à celles d'étudiants et de jeunes actifs, d'étudiants qui sont avec nous dans le studio. Aujourd'hui, ils viennent de Sciences Po Aix, d'HEC Sciences Po Paris et de l'IEP de Strasbourg.
L'écho de l'été, Dominique Seux. Sur France Inter.
Merci Patrick Artus d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un économiste que l'on entend souvent dans les médias. Vous avez travaillé à l'INSEE, à l'OCDE, vous avez enseigné à Polytechnique, avez été membre du Conseil d'analyse économique, vous travaillez pour Natixis, qui est une filiale du groupe BPCE. Bon, c'est ce qu'on appelle un parcours d'excellence comme économiste. Vous êtes aussi prolifique en articles et en livres. Alors, je vais citer les derniers et leurs titres vont donner à nos auditeurs, je crois, une petite idée de la raison pour laquelle je vous ai invité. Alors, vos trois derniers livres. Et si les salariés se révoltaient? 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir? Et le dernier, qui est sorti très récemment, La dernière chance du capitalisme, chez Odile Jacob. Et à chaque fois, vous avez écrit avec Marie-Paul Virard. Au fond, votre parcours vous identifie au courant mainstream, ce qu'on appelle le courant mainstream, le courant central des économistes. Mais là, vous donnez le sentiment d'avoir viré votre cutie. On va parler longuement de cela. Que s'est-il passé? Quelle conversion? Mais d'abord, que nous a appris cette crise? Alors, je pose la question à tous ceux qui participent à cette émission. Que nous a appris cette crise? Alors, pour autant qu'elle soit terminée, bien sûr.
Oui, je crois que les messages, nous ne les avons pas encore tous, puisque nous ne savons pas encore exactement ce que j'appelle les cicatrices de la crise. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester, finalement, de très désagréable dans nos économies? Ça peut être la capacité des jeunes à avoir un emploi, ça peut être l'excès d'endettement des États. Ça peut être, c'est quelque chose qui est très important et dont on parle pas assez, l'explosion des prix de l'immobilier ou de la valeur des entreprises avec les politiques monétaires qui ont été menées. C'est le fait qu'il y a des secteurs d'activité qui vont maigrir de façon durable, que les salariés de ces secteurs, on peut penser à l'automobile par exemple, hein, qui est un vrai sujet, et que les salariés de ces secteurs vont devoir être reconvertis le plus vite possible pour travailler dans de nouvelles industries, donc on aura un besoin de reconversion extrêmement violent.
Alors là, c'est plus lié à la transition écologique qu'à la crise du Covid, mais c'est vrai que ça se produit en même temps.
Oui, et puis la crise du Covid a poussé à accélérer la transition, d'ailleurs pour de bonnes raisons, c'est mon autre point, c'est que cette crise nous apprend qu'il y a des crises, simplement, hein, et qu'il y en aura
belle
d'autres.
Découverte.
Et qu'il y en aura d'autres. Donc, vous avez peut-être écouté à Aix-en-Provence Christine Lagarde, qui est, et tout le monde le dit, enfin, tous les gens un peu responsables disent, nous savons qu'il y aura d'autres crises. On ne sait pas si ça sera d'abord une autre crise financière, ce qui est plutôt mon jugement, ou si ça sera une crise climatique, ou si ça sera une crise sociale, ou si ça sera une crise de cybersécurité, mais il y aura d'autres crises. Assez probablement, vu la nature des déséquilibres financiers et leur taille aujourd'hui, une crise financière du type de la grande crise de 2008-2009, c'est-à-dire qui part de l'excès d'endettement et des bulles sur les
prix. Vous nous annoncez ça tranquillement,
non,
comme
pas
ça,
tranquillement
début
du tout,
où tout le monde est en vacances, vous nous dites, là, vous avez la date aussi,
et l'heure. Non, mais c'est peut-être plus rapide que ce qu'on croit, ce qui voilà. Et donc, la réflexion qu'il faut avoir, je crois, c'est qu'il y aura d'autres crises. Alors peut-être qu'on se trompe complètement et que ça sera une crise climatique. On voit ce qui s'est passé au mois de juillet, hein, au Canada et aux États-Unis. Donc, on peut avoir des phénomènes climatiques absolument désastreux. Et donc, on ne pourra pas continuer à réagir comme on le fait depuis 20 ans, c'est-à-dire laisser se produire la crise et ensuite essayer d'empêcher qu'elle ait des effets catastrophiques sur les personnes, sur l'économie. Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à injecter de la monnaie sans limite et à faire des déficits publics sans limite. Donc il va falloir qu'on soit capable de basculer sur de la prévention. Et ça vaut pour la santé. Vous savez que les estimations qui circulent en France, c'est que si on dépense 1 euro dans la prévention, on économise 2,5 euros dans le soin. Malheureusement, on dépense pratiquement rien dans la prévention. On dépense tout dans le soin.
Et ce qu'on dit sur ce que vous dites sur la santé, on peut le dire en fait sur l'ensemble des secteurs de l'économie. La finance, la prévention,
la finance, évidemment. Moi, je pense que les banques centrales prennent énormément de risques avec la stabilité financière. Le climat, bon, alors on est tous au courant. Enfin, je veux dire, on sait qu'on est à 1,25 degré et qu'on prend un dixième de degré tous les 3 ans. Donc le degré et demi, on l'a avant la fin de la décennie, quoi. Je veux dire, l'objectif fin de siècle, on l'aura avant 2030. Donc évidemment,
il vaut mieux travailler à la façon d'adapter nos sociétés à un climat plus chaud que concentrer uniquement sur une atténuation qui est nécessaire,
Il va falloir à la fois, de toute façon, l'objectif d'un degré et demi, on ne l'aura pas. Enfin, je veux dire, on y est, quoi, un degré et demi.
Alors, je reviens quand même sur la présentation que je faisais de vous. On a l'impression qu'effectivement, vous avez, viré votre cutie. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un économiste qui est, dans tous les classiques de l'économie, qui travaille avec des entreprises, dise, aujourd'hui, en gros, on va dans le mur, le système dysfonctionne.
Mais je crois pas que ce soit très bizarre. Prenons le point de vue d'un économiste complètement libéral. Ça peut être intéressant. Parce que on a l'impression que la critique de capitalisme est une critique de gauche. Non, prenons une critique totalement libérale. Et par exemple, prenons comme référence le livre de 1962 de Milton Friedman qui s'appelle « Capitalisme et liberté ». On peut pas faire pire, quoi, je veux dire. Si vous suivez les préceptes de Friedman, aujourd'hui, on fait totalement n'importe quoi, puisque on laisse apparaître des rentes partout. Donc on gagne plus sa vie en bénéficiant d'une rente qu'en innovant ou en créant une entreprise. Il y a des rentes immobilières, il y a des rentes sur la valeur des entreprises, il y a des rentes sur les marchés des biens avec des positions de monopole. On a laissé s'ouvrir énormément la pauvreté. Alors on ne sait pas exactement s'il y a vraiment 10 millions de pauvres en France. C'est un chiffre qui est un peu pour l'instant inventé, mais enfin c'est sans doute de cet ordre-là. On a une rentabilité du capital pour les actionnaires qui est de 13 ou 14%.
On va revenir sur la rentabilité du capital, l'évolution.
Ce que je veux dire, c'est que je peux avoir une critique extrêmement forte de la façon dont fonctionnent les économies et les entreprises en prenant un point de vue radicalement libéral. Donc c'est pas un point de vue de gauche, du centre ou du milieu. Je pense qu'aujourd'hui, ça crée un très grand consensus dans la profession des économistes, parce qu'en réalité, vous parlez à beaucoup d'économistes, vous êtes économiste vous-même, donc vous savez qu'il y a sur toutes ces questions un très grand consensus, sur les inégalités, sur le climat, sur les rentes, qui va faire l'objet d'un très vaste consensus.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on entend ces critiques plutôt chez les hétérodoxes. En fait, devient hétérodoxe parce que la situation l'exige et qu'il y a des dysfonctionnements.
Non, c'est justement la grave erreur des hétérodoxes, c'est de croire qu'ils sont hétérodoxes. Un économiste normal déteste les rentes, quoi. Je veux dire, il déteste les positions dominantes. Donc, ça n'a rien d'hétérodoxe. C'est le mainstream absolu conduit à une critique extrêmement forte de ce que nous voyons aujourd'hui.
Alors, prenons un des points précis que vous évoquez, vous nous dites aujourd'hui, et vous l'avez écrit dans votre dernier ouvrage, en réalité, le taux de distribution de dividendes est beaucoup trop élevé, ça n'a pas beaucoup de sens économique. Comment un libéral l'explique?
C'est pas les dividendes, c'est le rendement du capital, donc c'est les dividendes, mais c'est surtout la prise de valeur de l'entreprise. Taux de dividendes en Europe, il est de l'ordre de 3%, c'est rien de scandaleux. Simplement, le rendement du capital pour l'actionnaire, c'est 13, quoi. Donc il y a 10 points qui sont simplement la prise de valeur de l'entreprise dans laquelle on a investi. Alors je crois que ça révèle beaucoup de dysfonctionnements. D'abord, il n'est pas normal qu'on ait le même rendement du capital aujourd'hui, alors que les États s'endettent à zéro, que dans les années 80, où les États s'endettaient à 10 ou 12%. C'est ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire ce qu'on gagne en investissant dans une entreprise par rapport à ce qu'on gagne en prêtant à l'État, est devenu gigantesque, quoi. C'est 13 ou 14 points. Il n'y a aucune réalité de risque qui justifie qu'on ait ce niveau de prime de risque. Donc c'est pas une rémunération normale. Alors si vous créez le vaccin ARN messager, que vous gagnez beaucoup d'argent, que la valeur de votre entreprise explose, il y a rien à dire. Mais cette rentabilité de 15%, elle peut pas être vraie pour toutes les entreprises, y compris celles qui sont dans les métiers les plus anciens, les plus traditionnels, les plus routiniers. Et donc c'est une anomalie majeure qui a des conséquences extrêmement négatives, parce que dans une entreprise, quand on veut 15% de rentabilité, on coupe les investissements à ce niveau de rentabilité, et il y a plein d'investissements intelligents qu'on fait pas, et c'est surtout les investissements qui ont un horizon long, puisque faut que vos auditeurs
comprennent. Alors qu'on est dans une période où on a besoin d'investissements
dans les secteurs
totalement nouveaux.
Dans la santé, dans la transition
nouveau.
Énergétique. Si vous faites un investissement dans la transition énergétique, en gros, c'est des investissements pour 30 ans, quoi. Un champ d'éoliennes, ça dure 30 ans à peu près. Il faut comprendre que dire qu'on veut 15% de rentabilité du capital, ça veut dire qu'on va regarder un profit dans 30 ans en l'actualisant, hein, c'est-à-dire à 15% par an. Donc sa valeur aujourd'hui n'existe pas, elle est ridiculement petite. Donc on va faire que les investissements qui ont les horizons les plus courts. Et ça, c'est très grave pour la croissance. Et puis bien sûr, pourquoi, et donc c'est grave, et pourquoi est-ce que nous avons ça ? C'est sans doute simplement une habitude, et puis ça a été rendu possible, à nouveau, par les positions dominantes des entreprises, aussi bien d'ailleurs sur le marché des biens que sur le marché du travail, parce qu'on parle souvent des monopoles, des GAFAM, etc. D'abord, c'est pas que les GAFAM, hein, c'est dans tous les secteurs d'activité qu'il y a des positions dominantes. Et puis, les positions dominantes, on sait aussi par des travaux d'universitaires qui sont aussi sur le marché du travail. Hein. Dans chaque bassin d'emploi, il y a un petit nombre d'entreprises qui contrôlent vraiment le marché du travail. Et donc, ça permet d'avoir des rentes, quoi. Et donc, ce qu'on voit, c'est l'apparition d'une énorme rente.
Est-ce qu'on peut résumer ce que vous nous décrivez en disant, au fond, on a un capitalisme illibéral ou non libéral.
Oui, il est pas. Alors je sais pas pourquoi on l'appelle néolibéral, parce que néolibéral c'est Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Donc là il y a une logique interne forte. On a le droit d'être libéral au sens de Reagan. Donc on dit pas beaucoup d'État, pas beaucoup de protection sociale, une pression fiscale faible, un marché du travail déréglementé, libre circulation des biens et des capitaux. Bon, et Reagan disait, je fais tout ça parce que ça va permettre d'avoir beaucoup de croissance, beaucoup d'emplois, beaucoup d'innovation, etc. Au début, ça a pas mal marché. Hein. Et puis ensuite, on est sorti de ce modèle et on est revenu à un modèle de rentier. Aujourd'hui, le capitalisme, il est pas néolibéral. C'est un très mauvais mot. Ça, c'était les années 80.
C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un capitalisme... Naturellement, il faut que vous nous donniez les solutions. C'est-à-dire, comment le système peut se corriger de lui-même, sauf à basculer dans complètement autre chose, dans un monde d'après, mais on a parfois quelques doutes sur le monde d'après. Comment est-ce qu'on corrige de l'intérieur du système libéral ces dysfonctionnements?
Alors, c'est ce qu'il faut essayer de faire, et il faut mettre les entreprises à bord. Et moi, je suis assez frappé, quand on a écrit ce livre avec Marie-Paul Virard, des réactions extrêmement positives d'un certain nombre de grands chefs d'entreprise, de grandes entreprises, qui sont venus nous voir en disant « Vous avez raison, on va dans le mur, notre modèle va être complètement rejeté socialement, il faut qu'on le fasse évoluer, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à des évolutions possibles de ce modèle ?» La grande difficulté, c'est que vous pouvez convaincre le PDG d'une entreprise que s'il acceptait 6 ou 7% ou 8% de rentabilité du capital, ça irait mieux pour tout le monde. Il pourrait investir plus, il pourrait payer mieux ses salariés, il serait moins forcé de délocaliser.
Mais vous n'allez pas convaincre ses
actionnaires. Mais il va falloir convaincre ses actionnaires, en particulier anglo-saxons, parce que des actionnaires européens, vous pouvez les convaincre. Mais des actionnaires anglo-saxons, c'est très compliqué. Donc on a un point de blocage majeur qui est le poids de l'actionnariat anglo-saxon dans nos entreprises. Mais ça, on paye ses erreurs. Je veux dire, on a rejeté en Europe, à part les Pays-Bas, les fonds de pension. Donc, on n'a pas de grands actionnaires locaux. Et donc, nos entreprises ne nous appartiennent pas.
La voie de sortie, c'est de mettre en place un système de capitalisme européen qui corrigerait ses propres défauts.
Comme on l'a dans certains pays d'Europe du Nord. Hein,
alors, qu'est-ce qu'on fait ? On mobilise l'épargne des Européens en leur disant...
On mobilise l'épargne des Européens dans des grands fonds de pension qui sont en Europe du Nord souvent publics. Hein, ce n'est pas des grands fonds de pension privés, dont l'objectif est de payer des retraites, et pour payer des retraites, on n'a pas besoin de 15% de rentabilité.
Hein. Alors, les auditeurs et auditrices sont en train de se dire « Ah, Patrick Artus nous vend la retraite par capitalisation.
Voilà, » Alors, le vrai
c'est un biais libéral pour faire, au nom de la critique du système,
J'ai essayé sur une chaîne de télévision que vous connaissez bien d'expliquer que la seule réforme de gauche, c'était la création de fonds de pension. Je n'ai pas vraiment été cru, mais c'est vrai. Si on avait des fonds de pension, et à nouveau, je parle de fonds de pension, public, hein, qui appartiennent à l'État. Eh bien, on aurait un actionnariat local fort, comme on l'a aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, etc. Nous serions propriétaires beaucoup plus de nos entreprises et nous pourrions avoir notre modèle de capitalisme qui soit pas celui de la caisse de retraite des pompiers de Chicago. Hein. Et simplement, la gauche française a décidé une fois pour toutes que le fonds de pension c'était libéral et la retraite par répartition c'était de gauche. Alors que c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, objectivement, il faut réfléchir. Le fonds de pension,
c'est là que vous vous distinguez d'Oxfam, d'Attac et d'autres
mouvements. Ah oui, non, mais là, c'est un point de blocage totale dans la gauche française, cette idée que les actions c'est mal, quoi, je veux dire. Hein, mais d'un autre côté, donc tant que la gauche européenne pensera que les actions c'est mal, ben nos actions seront détenues par les anglo-saxons et les PDG de nos entreprises, même plein de bonne volonté, feront ce que leur disent leurs actionnaires anglo-saxons, c'est-à-dire faire 15% de rendement des fonds propres.
Deux points sur lesquels j'aimerais vous entendre avant de terminer cette première partie, c'est sur la mondialisation. Est-ce que vous avez le même type de critique? Est-ce qu'il faut modifier, il faudrait modifier la façon dont les échanges internationaux sont organisés depuis 25 ans à peu près, avec le rôle de la Chine. Est-ce que, voilà, sur la mondialisation, vous avez une approche spécifique?
Deux choses. Une chose qui est un peu banale, c'est qu'on s'en tirera pas en Europe sans mettre on n'a pas le droit de dire taxes, mais des ajustements aux frontières. Sur le CO2, alors ça avance, mais évidemment aussi sur d'autres choses. Enfin, sur les coûts sociaux, le niveau de protection sociale. Alors, ça peut pas être les salaires. On peut pas reprocher un pays émergent d'avoir des salaires plus bas que les nôtres. Mais s'il n'a aucune protection sociale, par exemple, on peut lui reprocher. Parce que si on fait pas ça, évidemment, on va créer un désavantage compétitif terrible. Bon, ça, c'est d'abord vrai pour le CO2, mais ça, c'est une banalité. Si on prend le cas français, quelque chose qui est moins banal, c'est que notre problème n'est pas du tout l'ouverture des échanges avec les émergents. La dégradation du commerce extérieur de la France depuis 20 ans, elle est entièrement liée à nos échanges avec l'Europe de l'Ouest. Ça n'a aucun rapport, c'est même pas les pays d'Europe centrale, et c'est encore moins les pays émergents d'Asie, ça n'a aucun rapport avec la globalisation. Nous nous dégradons vis-à-vis de l'Allemagne, de l'Italie, enfin des pays de la zone euro, quoi. Et donc c'est un phénomène qui est totalement différent.
La Chine n'est pas en cause.
Non, ça n'a rien à voir avec l'ouverture des échanges avec ces pays, hein. C'est une dégradation à l'intérieur de la zone euro, de notre capacité à exporter, et ça vient essentiellement d'un problème de compétences, hein. On a un énorme problème de compétences, en particulier pour les métiers de l'industrie. L'industrie n'arrive pas à recruter. Ça vient sans doute aussi un peu des impôts, mais je pense beaucoup plus de fait que c'est très compliqué de faire de l'industrie en France. On n'arrive pas à recruter des personnes avec les bonnes compétences. Il y a des règles aussi
industrielles, de formation, des normes très compliquées. Question de normes, etc.
Et donc, la désindustrialisation de la France n'a aucun rapport avec l'ouverture des échanges avec les émergents.
Voilà qui est dit. Sur la rentrée, nous sommes au milieu de l'été. Qu'est-ce que vous sentez en tant qu'économiste sur la façon dont l'économie va repartir ou pas, ou caler peut-être au mois de septembre après une flambée, un rebond qui a été effectivement spectaculaire?
Il y a la quatrième vague qu'on va avoir, hein. Maintenant, je n'ai pas l'impression que les mesures qui devront être prises auront un gros effet sur l'économie. Ce sera des mesures sans doute assez limitées de restrictions de certaines activités en intérieur un peu dangereuses.
Donc on a un bon rebond qui va continuer.
Oui, on va faire 6% de croissance cette année. Alors sauf si la quatrième vague devient un truc incontrôlable, mais c'est pas ce qu'il y a dans les scénarios de Pasteur, par exemple. Hein. Et on devrait avoir 4,5, peut-être 5 l'année prochaine. Donc ça c'est... Non, le sujet pour moi, c'est qu'il va falloir réfléchir collectivement à un moyen d'augmenter les plus bas salaires sans détruire de l'emploi. Parce que si on ne fait pas ça, c'est pas une crise économique qu'on va voir, c'est une vraie crise sociale. Donc on a promis à un certain nombre de professions d'améliorer leur situation de revenus, on ne le fait pas. Et le consensus des économistes, là je m'en écarte, est de dire que si on monte les plus bas salaires, on détruit de l'emploi peu qualifié. Je pense qu'on peut faire autrement. Et qu'il y a des méthodes, par exemple en touchant aux minima de branches, dans les branches qui payent des bas salaires, hein, qui font... Le problème quand vous montez les bas salaires, c'est que si l'entreprise est toute seule à le faire, bah, elle est moins compétitive que ses concurrents, donc elle le fait pas. Mais si vous forcez toutes les entreprises d'une branche à monter leurs bas salaires, il n'y a pas de problème de concurrence qui se crée, donc vous pouvez le faire.
Pardon, mais vous évoquiez il y a un instant la concurrence avec l'Allemagne et la dégradation de la compétitivité industrielle par rapport à nos voisins, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne.
Les bas salaires, c'est pas un problème de compétitivité. Ils sont où les bas salaires? C'est le nettoyage des bureaux, les salariés de la restauration, les salariés de la grande distribution et un ensemble de services à la personne. C'est absolument pas l'industrie. Et c'est même pas c'est à peine des fournisseurs de l'industrie. Donc non, il y a pas. On peut monter les bas salaires en France, à condition de le faire intelligemment pour que ça ne détruise pas de l'emploi. Et ça va être le vrai enjeu, je pense, de la rentrée.
Merci Patrick Artus pour cette première partie. Nous nous retrouvons dans un instant après une pause musicale. Et puis ensuite, les trois étudiants qui sont avec nous vous poseront des questions et discuteront et dialogueront avec vous.
Winter comes and food is scarce. We'll want our toes to stay in. horse fixed the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly. Comes. I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make a shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, comes and find the sun when winter comes.
C'était Paul McCartney, When Winter Comes, et on espère qu'en économie l'hiver n'arrive pas.
L'écho de l'été sur France Inter.
Et nous sommes toujours avec Patrick Artus, l'économiste, et maintenant les questions des étudiants. Alors Antoine Oberdorf, c'est à vous la première question. Vous êtes en master d'études européennes à l'IEP de Strasbourg, étudiant en journalisme qui est rentré au CFJ dans quelques jours. Et, bon, on va le dire pour les auditeurs de France Inter, vous avez fait vos premières armes en radio comme stagiaire avec Jean Lebrun, qu'on ne présente naturellement pas. Et vous voulez nous parler, poser une question sur le climat.
Absolument. Alors Patrick Artus, dans votre ouvrage, vous parlez de dernière chance du capitalisme. Et immédiatement, on ne peut pas s'empêcher de penser à notre dernière chance, la dernière chance de l'humanité, et l'urgence climatique. Dans le rapport qu'ils ont récemment remis avec une trentaine d'économistes au président de la République, Olivier Blanchard et Jean Tirole jugent que la réintroduction d'une taxe carbone élargie au domaine des transports et du logement est indispensable. On sait qu'elle avait été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, elle reste à l'heure actuelle très impopulaire. Comment rendre cette taxe carbone démocratiquement acceptable et enfin réconcilier fin du monde d'une part et fin du mois?
Oui, alors il faut faire la taxe carbone, parce que si on ne fait pas la taxe carbone et qu'on veut réduire les émissions de CO2 de 50% ou 55% à l'horizon 2050, il faudra écrire des milliers de pages de règlements sur la façon dont nous habillons, nous mangeons, nous logeons, nous transportons, et il y aura des trous partout et ça va être une bureaucratie infernale. La taxe carbone, c'est à l'avantage de coordonner toutes les décisions dans le bon sens, sans avoir besoin d'écrire des milliers de pages de règles. Le problème, effectivement, c'est que les 10% de Français en haut de l'échelle des revenus dépensent 5% de leurs revenus sur l'énergie, et les 10% en bas dépensent 15% de leurs revenus sur l'énergie. Donc il faut associer la taxe carbone à une redistribution. Alors, le problème n'est pas tellement la capacité à le faire, le problème c'est la visibilité de cette redistribution. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes concernées... qui vont devoir changer de voiture, changer de chaudière, etc., et payer plus cher leur carburant avant qu'ils aient changé de voiture, immédiatement perçoivent que ce n'est pas une perte de pouvoir d'achat. Et moi, j'ai suggéré à un certain nombre d'hommes politiques de créer un budget annexe au budget de l'État, ou de façon totalement séparée du reste du budget. Rappelez-vous que ce qui a créé les Gilets jaunes, c'était une augmentation de la taxation carbone, dont 30% seulement servait à la transition énergétique. Le reste tombait dans le budget de l'État de façon indifférenciée. Donc vous créez un budget annexe, vous mettez en ressources la taxe carbone, et vous mettez en emploi des choses extrêmement visibles qui sont ce que font les Suédois, c'est de la redistribution directe aux personnes les plus pauvres qui même vont être gagnantes dans ce système.
Donc si je vous entends bien, quelque part jouer sur la perception que les gens ont de leurs avantages
mais
directs.
Il faut que le jour où le prix des carburants monte à la pompe, ou bien le jour où on n'a plus le droit de changer une chaudière au fioul pour une autre chaudière au fioul, il faut qu'ils reçoivent un chèque, si vous voulez, qui est bien entendu non ciblé. C'est pas un chèque qui est ciblé sur de l'achat d'énergie, sinon ça sert à rien. Quand vous faites de la prime à la cuve pour remplir ça, c'est une folie totale parce que avant, donc il faut créer un effet de prix relatif, il faut que l'énergie fossile devienne chère, mais il faut rendre du revenu de façon non affectée aux personnes les plus pauvres.
Et alors justement rendre des subsides aux personnes les plus pauvres, comment lutte-t-on contre le non-recours? Parce que c'est ça le risque qui se dessine quand même. La préconisation de Blanchard et Tirol, c'est donc ces chèques, mais comment fait-on pour qu'elle y ait très directement accès et qu'il n'y ait, pas de non-recours?
Oui, mais on doit pouvoir le faire de façon automatique. Si vous voulez, on sait que, par exemple, on a le même problème sur le RSA. Par exemple, il y a plein de gens qui ont droit au RSA et qui ne le demandent pas. Et donc, on réfléchit à une automaticité du transfert public. C'est-à-dire qu'en gros, l'État a des listes et envoie de l'argent, quoi. Je veux dire, effectivement, faut pas le faire sur une base de demande, parce que là, vous allez avoir beaucoup de gens qui ne le feront pas. Mais faut le faire de façon automatique. Donc, toute personne ayant un revenu de moins de temps reçoit X euros tous les mois, et le même mois où on commence à mettre en place la taxe CO2. Et à nouveau avec une lisibilité complète du transfert.
Alors Patrick Artus, vous parliez de réglementation. Vous prenez la régulation du capitalisme. Mmh. Vous êtes plutôt un tenant de l'ordolibéralisme, oui. Pourrait-on dire ainsi, et qui repose avant tout sur des incitations. Ce qui se profile du côté de la Commission européenne en ce moment, c'est la date de la fin de vente des véhicules neufs à moteur thermique. Mmh. Quel regard d'économiste portez-vous sur cette réglementation?
On ne peut pas faire... Alors, il faut un prix du... moi, je suis un ordolibéral, hein, contrairement à ce que disait Dominique Seux avant. Mmh. Et je pense que, à nouveau, on est mieux quand on peut, avec une incitation, qu'avec une règle. Un exemple, c'est le CO2, on en parlait. Il y a un autre exemple, c'est le bonus-malus sur les licenciements. Si vous voulez empêcher les licenciements injustifiés, soit vous demandez à l'administration du ministère du Travail de discriminer les bons et les mauvais licenciements, et ils savent pas le faire, soit vous faites payer un malus aux entreprises qui licencient, et celles qui acceptent de payer le malus, elles sont de bonne foi par construction quand elles licencient. Donc vous voyez, le remède ordolibéral, me semble, est toujours supérieur au remède réglementaire. Il a moins de trous, en plus, moins de possibilités de détournement.
Pour être très concret, la taxe carbone, on en parle depuis pas mal d'années. On ne la voit pas beaucoup. En revanche, ce qu'on voit, c'est on voit les normes qui sont, venant de Bruxelles notamment, beaucoup plus efficaces. Est-ce qu'il n'y a pas, dans les instruments économiques, finalement, quelque chose qui réussit, c'est les normes, même si ça vient d'en haut et du politique et de l'administratif, et ce qui vient des taxes, en fait, on en parle plus qu'on ne les met en œuvre.
Oui, mais parce que pour l'instant, et c'était la question, d'abord, on n'a pas vraiment de taxe carbone, on a des droits à émission, dont le prix a beaucoup monté, on est presque à 60 euros la tonne, hein, c'est récent, hein, donc ça n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup d'effets, et puis ça ne concerne que très peu de secteurs. Donc la Commission européenne, je crois, a prévu d'étendre à beaucoup plus de secteurs en 2025, mais on pourrait essayer de faire ça plus vite. Le transport, l'habitation, etc. Mais moi, je crois qu'il faut une taxe carbone générale. Il faut l'ajustement aux frontières, sinon, effectivement, c'est dramatique.
Et donc, 2035 pour les véhicules neufs à moteur thermique?
Oui, alors après, ce que je voulais dire, c'est que ça ne suffira pas, de toute façon. Parce que vous voulez zéro émission de CO2. Pour qu'on ne consomme rien d'un bien, il faut que son prix soit infini. Donc, de toute façon, il faudrait une taxe carbone tellement gigantesque. Donc, c'est important,
donc,
mais il faudra un certain nombre de réglementations en plus. Comme dans l'ordolibéralisme, vous n'allez pas traiter le travail des enfants par des incitations, quoi. Et donc, et puis, juste si j'ai encore 10 secondes, c'est un point important. De temps
alors,
en temps,
8 secondes, pas plus.
8 secondes. La règle est nécessaire, en plus de la taxe carbone, pour des raisons redistributives. Par exemple, comme les riches émettent trois fois plus de CO2 que les pauvres, si vous ne faites que par la taxe carbone, si vous voulez, c'est surtout les pauvres qui vont devoir réduire leurs émissions de CO2, parce que les riches paieront le CO2. Donc, faut mettre un peu de règles aussi pour aussi forcer de la redistribution. Quoi.
Alors, Patrick Artus, maintenant une question posée par Julien Vianellio, qui termine des études à Sciences Po Aix et travaille actuellement dans une start-up. Julien.
Merci, bonjour. Vous nous avez parlé en début d'émission d'une succession de crises qui vont venir, crise financière, peut-être crise sanitaire à venir encore, et donc la nécessité de devoir finalement opérer un renouveau du capitalisme, rénover le capitalisme actuel. Moi qui m'intéresse et qui travaille même dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, j'étais un peu marqué par le départ forcé d'Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone, entreprise à mission, qui incarnait justement ce renouveau du capitalisme, un capitalisme social. Est-ce que finalement, social et business, c'est vraiment, c'est pas juste une hérésie?
Est-ce qu'on peut tenir les deux bouts de la corde?
On va le faire. Alors d'abord, notre conversation avec Dominique il y a quelques minutes, il y a une contradiction évidente entre la volonté de certains dirigeants. Je crois que les dirigeants sont pas dans le mauvais camp. Et la nature de leur actionnariat. Donc, il va falloir. C'est pour ça qu'il faut probablement soit énormément de pédagogie vis-à-vis de l'actionnariat, soit changer la nature de l'actionnariat. Et c'est tout à fait clair qu'on a ce problème. Les fonds activistes, et ESG, ça les intéresse. C'est-à-dire que pour vos auditeurs, hein, tout concerne l'environnement, le social et la bonne gouvernance des entreprises, ça les intéresse pas énormément, quoi. Et puis, deuxième réponse à ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la finance est en avance. Quand vous regardez tous les groupes d'investisseurs hein, qui se montent hein, et qui demandent, alors ils demandaient, au début c'était l'environnement et maintenant c'est S, hein, donc c'est le social, il y a une demande sociale extrêmement forte et on va avoir une normalisation, c'est-à-dire qu'on va, comme les entreprises publient leurs comptes financiers, elles vont publier ce qu'on appelle leurs comptes extra-financiers de façon normalisée, c'est-à-dire qu'on pourra comparer vraiment sur un ensemble d'indicateurs les entreprises entre elles et la pression de la finance va être extrêmement forte, c'est-à-dire que la panique des conseils d'administration, c'est que si vous n'êtes pas bon sur E, S ou G, vous aurez plus d'actionnaires. Les gens voudront plus porter les actions de l'entreprise.
Hein. C'est pas un peu du social ou du greenwashing, puisque quand même, ce qu'on remarque, c'est la course au profit avant la course au sociétal, non ?
Oui, mais Julien essaie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le premier quart d'heure de l'émission et les réponses maintenant ?
Non, pourquoi ? Je crois pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Non, mais à nouveau, c'est compliqué parce que d'un autre côté, il y a des moments où une entreprise doit licencier. Donc, je reviens à mon point d'avant. Bonus-malus. Si une entreprise licencie en payant le malus, on peut considérer que c'est pas un licenciement, je vais y arriver, de confort. C'est un licenciement qui a une justification économique et elle accepte de payer le coût social de ce licenciement à la collectivité. Ça se passe aux États-Unis, hein, ce truc-là. Ça s'appelle experience rating, hein. Les entreprises qui ont des ratings et celles qui ont beaucoup licencié payent plus de cotisations sociales que les autres. Ça a considérablement allongé aux États-Unis la présence d'un salarié dans la même entreprise. Donc, ça a des effets très positif, on sait que ça marche. Hein. Donc voilà, donc il faut évidemment accompagner tout ça des bonnes incitations. Mais honnêtement, je crois aujourd'hui, moi je sens, mais c'est récent, hein, parce que ça date peut-être il y a quelques années, il y a un vrai mouvement d'opinion dans le patronat, hein, les patrons des boîtes, les top management, quoi, c'est pas les actionnaires, je parle, pour se dire, il y a une espèce de sentiment de culpabilité, si vous voulez, hein, disant on s'enrichit, on enrichit nos actionnaires, mais qu'est-ce qu'on fait pour la société ? Je crois que c'est extrêmement sincère. Ce mouvement. Hein. Alors après, ils recherchent la façon de le faire. Est-ce que c'est de créer des fondations qui vont s'occuper de jeunes en difficulté ? Est-ce que c'est de distribuer des actions gratuites aux salariés, etc. Mais il y a une vraie volonté de faire quelque chose, je crois. Je ne crois pas que ce soit du double jeu.
Voilà, le dernier échange maintenant avec Lily Vesereau, étudiante à HEC et à Sciences Po, tout ça en même temps.
Bonsoir Patrick Artus, vous parliez tout à l'heure des inégalités et de la pauvreté. Moi, je voulais vous interroger sur les enjeux économiques des inégalités hommes-femmes. Lors de la crise sanitaire, une femme sur trois a cessé toute activité contre un homme sur quatre. Pourtant, sur les 35 milliards d'euros du plan de relance qui ont été alloués à des secteurs particuliers, on a seulement 7 milliards qui sont dédiés à des emplois féminins. Et je voulais ainsi vous demander, selon vous, quelle place a la relance budgétaire dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes ?
Est-ce que la relance budgétaire est le bon instrument ? D'abord, on a des travaux académiques qui sont assez intéressants et qui montrent que les entreprises dont les dirigeants, la dirigeante est une femme, ont une meilleure performance que celles dont les dirigeants sont des hommes. Ce qui est quand même relativement intéressant quand on sait qu'il y a, de mémoire, zéro femme président du CAC 40 aujourd'hui. On est passé de 1 à 0.
Hein, alors, il y a Catherine McGregor à la tête
d'Engie. Elle est DG, elle n'est pas présidente, Catherine. Ah. Oui, mais bon, disons qu'il y a une femme, quoi, je veux dire, il y a Catherine. Voilà. Après, quand je vois les choses de l'intérieur, on a fait les conseils d'administration. Moi, je suis pour les quotas. Honnêtement.
Mais hein. Écoutez, vous parlez des conseils d'administration, des grandes PDG, vous parlez du CAC 40, ces 40 entreprises. Quid des femmes cadres ?
Ah oui, mais les conseils... Oui, justement, parce... voilà. Alors, on a commencé par les conseils. Honnêtement, l'expérience est extraordinairement positive. C'est-à-dire qu'on a des femmes dans les conseils qui n'auraient jamais été administrateurs s'il n'y avait eu cette loi et qui sont remarquablement incroyables, quoi. Hein,
est-ce qu'il faut appliquer la méthode des quotas
après,
partout?
Ça y est, on est en train de faire pour les comités exécutifs, c'est-à-dire pour les dirigeants des entreprises. C'est plus compliqué parce que trouver une femme pour un conseil, elle peut être n'importe où dans la société. Dans le comité exécutif, c'est forcément une femme de l'entreprise. Donc vous allez faire doubler des hommes par des femmes à toute allure, si vous voulez, pour qu'elles puissent être dans les comités exécutifs. Donc, mais ça va se faire. faire et ça va être extrêmement positif. Mais et dans 5 ans, on dira c'était génial de le faire.
Mais justement, est-ce que cette égalité ne doit pas se créer plutôt vers le bas en se concentrant sur les jeunes actifs ?
Vous avez complètement raison, mais toutes les entreprises le font. Dans toutes les entreprises que je regarde ou dont je suis administrateur, vous avez des statistiques qui sont discutées en conseil d'administration sur la proportion de femmes à tel ou tel niveau dans la hiérarchie, avec des objectifs d'augmentation, des promotions. Et vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que là, on va mettre 40% de femmes dans les comités exécutifs. Ça va être un peu sportif à nouveau. Et ça va forcer les entreprises à promouvoir les femmes plus bas et de plus en plus bas dans la hiérarchie. Non, mais moi, je suis persuadé, si vous voulez, que ce mouvement va s'enclencher.
Et donc, vous parlez des femmes dans les entreprises, mais il y a aussi des différences sectorielles, puisque les femmes s'orientent plus vers certains secteurs. Oui. Et c'est d'ailleurs les secteurs qui ont été le touchés le plus par la crise du Covid, le secteur des services, le secteur sanitaire. Et pourtant, le plan de relance gouvernemental ne se concentre que très peu sur ces secteurs qui ont été pourtant les plus touchés.
Oui, alors il y a deux réponses à ça. Je ne vais pas défendre le plan de relance. Non, il y a ce dont on parlait déjà avant, je ne sais plus avec qui est la nécessité absolue de faire quelque chose de très significatif sur les plus basses rémunérations. Et là, vous allez toucher énormément de femmes. Je veux dire, dans la distribution, les services à la personne, la restauration. Il faut le faire. Donc, de toute façon, on va le faire. Donc, la seule réflexion, c'est comment on le fait sans faire de casse en termes d'emploi. Mais c'est la réponse numéro un. La réponse numéro deux, qui est un vrai sujet, c'est qu'il y a très peu de femmes qui font des études scientifiques. Vous avez que 20% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Et ça, il y a un vrai problème qui est comment on va attirer les jeunes filles et les jeunes femmes vers les études scientifiques. On a un énorme déficit de jeunes femmes dans les études scientifiques. Et alors après, vous avez très peu de femmes ingénieures. Quoi, vous voyez. Et comme vous avez peu de femmes ingénieures, ça crée un problème après. Les secteurs qu'on veut pousser, c'est l'électronique, la transition énergétique, la pharma, etc. C'est des trucs scientifiques, si vous voulez.
Donc, vous parlez par exemple tout à l'heure de l'économie sociale et solidaire. Elle est aussi très fortement portée par des femmes depuis sa création. Donc, on peut voir que cette différenciation de secteur, elle est pas forcément, elle découle pas forcément des choix des femmes, mais que aussi parfois le fait que les femmes choisissent un secteur vont contribuer à peut-être la dépréciation de la valorisation de ce secteur.
Oui, mais à nouveau, j'en reviens sur ma proposition, qui est une augmentation très importante des plus basses rémunérations dans les secteurs dont vous parlez.
Voilà, Patrick Artus, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous d'être pour cet échange nourri et engagé. Merci à vous trois. La semaine prochaine, nous recevrons l'économiste Jean-Marc Daniel. Il me reste à remercier France Bleu qui nous a accueillis, notre technicien Stéphane Dumas, Théo Raison, le réalisateur de cette émission, et le Cercle des économistes avec qui nous avons sélectionné les étudiants qui sont avec nous. À la semaine prochaine. Bonsoir.